VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition du 22 juin 2020. Eric Manirakiza pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. La procureure de la Cour pénale internationale dénonce des erreurs de droit dans l'acquittement de Laurent Gbagbo. Deux militaires de l'armée centrafricaine ont été tués dans une embuscade à Besson, dans l'ouest du pays. Nouvelle élection présidentielle demain au Malawi. Peter Mutharika, président sortant, affrontera de nouveau Lazarus Chakwera. La pandémie de Covid-19 continue de s'accélérer dans le monde, prévient l'OMS. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans 10 minutes. Le chef du commando djihadiste qui a mené une attaque meurtrière contre l'armée à Kafolo dans le nord de la Côte d'Ivoire a été capturé, a affirmé lundi le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui n'a donné aucun détail sur l'identité du chef de ce commando, ni les circonstances de son arrestation. Dans la nuit du 10 au 11 juin, une attaque attribuée à des djihadistes contre une position militaire à Kafolo avait fait une dizaine de morts et 6 blessés parmi les militaires ivoiriens. L'armée ivoirienne n'a jamais donné de bilan plus précis à ce jour. La procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, s'attaque au juge de la Cour ayant acquitté l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en janvier 2019. L'accusation estime que les juges n'ont pas rendu une décision motivée en bonne et due forme. Abdourahmane Djihad.
La CPI a démarré ce lundi jusqu'à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure à la suite des acquittements de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les deux hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a interjeté appel en septembre 2019, 8 mois après l'acquittement, alors qu'elle est sous le feu des critiques, certains l'accusant de ne s'en prendre qu'aux Africains, une accusation rejetée par son bureau. En raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, l'audience de cette semaine est partiellement virtuelle, une première pour la CPI. Laurent Gbagbo, qui arbore une barbe grisonnante, assiste à l'audience par visioconférence. Charles Blé Goudé est lui présent dans la salle. Les juges de la chambre d'appel de la CPI décideront à un stade ultérieur si un procès en appel doit avoir lieu.
En Centrafrique, deux militaires de l'armée régulière ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments d'un des principaux groupes armés à Besson, dans l'ouest du pays. Les précisions de Freeman Sipil.
Selon des sources militaires, l'attaque contre le convoi des forces armées centrafricaines s'est déroulée dans la soirée du dimanche 21 juin, alors qu'ils étaient en patrouille. Ces militaires ont été pris à partie par des éléments du groupe armé 3R, dirigé par le chef de guerre camerounais Sidiki Abbas. Sur place, on parle de 2 morts et 6 blessés. Un des blessés succombera plus tard à ses blessures. La MINUSCA qui parle de 2 morts et 5 blessés dénonce une attaque lâche. Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission onusienne en Centrafrique.
C'est encore une fois une attaque lâche de 3R et qui justifie l'opération que nous menons conjointement avec les FACA actuellement pour mettre fin à ces violences et surtout à ces attaques contre les forces de défense et de sécurité et contre la MINUSCA. La MINUSCA va poursuivre son opération avec les FACA dans cette zone. Le 3R doit cesser son expansionnisme, le 3R doit cesser les violences contre les populations, le 3R doit cesser les attaques contre les forces de défense de sécurité et contre les casques bleus.
Cette attaque survient alors que les forces de défense et de sécurité nationale et la MINUSCA ont lancé la semaine dernière une vaste opération militaire contre les positions du mouvement 3R, un des groupes armés signataires de l'accord de paix du 6 février 2019. Fumansi Pila Bongi pour VOA Afrique.
Le Malawi reprend mardi le chemin des urnes pour une nouvelle élection présidentielle après l'annulation pour cause de fraude de la réélection l'an dernier de Peter Mutharika. Le président sortant affrontera de nouveau Lazarus Chakwera. Nathalie Barge a les détails.
Lors de sa dernière réunion publique samedi à Rumphi, dans le nord du pays, Peter Mutharika a exhorté ses partisans à lui rendre sa victoire. « Votons pour faire honte à ceux qui nous ont volés », a-t-il lancé. Lazarus Chakwera a de son côté mobilisé ses troupes en dénonçant la corruption et la faillite économique du régime sortant. Il a estimé que la reconnaissance par la justice des fraudes survenues en mai 2019 confirmait qu'aucune élection n'avait été libre dans son pays. « Cette fois, nous avons l'espoir que l'élection sera traitée avec l'intégrité qu'elle mérite », a-t-il dit depuis son QG de campagne à Lilongwe. Le Malawi se rend aux urnes malgré la pandémie de coronavirus. M. Mutharika avait annoncé l'instauration d'un confinement, mais la justice l'a suspendu au motif qu'il ne s'accompagnait d'aucune mesure d'aide aux populations les plus pauvres.
De violents affrontements entre groupes rivaux de trafiquants ont fait une dizaine de morts en fin de semaine dernière dans le nord du Niger, proche de la Libye et l'Algérie, plaque tournante de trafic de drogue, d'armes et de migrants. En février 2019, des officiers de l'armée nigérienne ont été tués lorsque leur convoi était tombé dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés à bord de plusieurs véhicules transportant de la drogue. Dans le sud de la Tunisie, des heurts ont repris lundi entre forces de l'ordre et manifestants à Tataouine, en proie depuis un mois à des troubles sociaux sur fond de chômage. La police a procédé à d'intenses tirs de gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants dans le centre de cette ville située à 500 km au sud de Tunis. En Libye, le gouvernement d'Union nationale a dénoncé dimanche comme une déclaration de guerre les menaces de l'Égypte d'intervenir militairement dans le conflit. Cette guerre des mots est intervenue deux jours avant une réunion ministérielle par visioconférence de la Ligue arabe sur la Libye, à laquelle le GNA a refusé de participer. L'Égypte soutient les forces du maréchal Khalifa Haftar. Appuyé par la Turquie, le GNA a engrangé d'importantes victoires depuis début juin. Ses forces sont freinées dans leur avancée vers la ville de Sirte qu'elles veulent reprendre aux troupes du maréchal Haftar.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 469 000 morts dans le monde et plus de 8 979 750 cas d'infection. Les derniers développements avec Ekia Badou.
Les États-Unis sont le pays le plus touché avec au moins 120 000 décès, suivis du Brésil, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France. En France, l'école est redevenue obligatoire pour tous les écoliers, collégiens, l'exception des lycéens, à deux semaines des grandes vacances d'été. Le coronavirus a fait plus de 50 000 morts et a contaminé plus d'un million de personnes au Brésil. L'Amérique latine reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 20 000 morts au Mexique. En Afrique du Sud, renvoyés chez eux, les étudiants redoutent d'avoir perdu leur année universitaire malgré l'enseignement à distance. Au Libéria, les autorités ont annoncé un renforcement du couvre-feu et une prolongation de l'état d'urgence car les Libériens ne respectent plus les consignes sanitaires. La pandémie de Covid-19 continue de s'accélérer dans le monde avec le dernier million de cas signalés en seulement 8 jours, a prévenu Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Beaucoup de jeunes américains asiatiques se sont mis à partager des articles en ligne et des messages sur les réseaux sociaux traduits en chinois, coréen et vietnamien sur des sujets tels que parler à ses parents asiatiques du racisme systémique et intérioriser. Les organisations comme CAL et OCA National, qui coopéraient déjà avec les communautés noires et hispaniques, ont mené différentes actions pour soutenir les manifestations contre le racisme, comme la tenue d'un sommet virtuel sur la solidarité afro-asiatique. La ville de New York a annoncé qu'elle allait retirer une statue du 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, de son emplacement en pleine Manhattan, en raison de ses opinions jugées colonialistes et racistes, une mesure vivement critiquée par le président Donald Trump. Cette statue en bronze montre l'ancien président assis sur un cheval et surplombant un homme noir et un Amérindien marchant à pied à ses côtés. Après la mort de George Floyd, les États-Unis sont en plein examen de conscience sur la question du racisme et ont rouvert le débat autour des monuments célébrant l'héritage esclavagiste du pays. La semaine dernière, les talibans ont lancé 422 attaques dans 32 provinces, tuant 291 membres des forces de sécurité et en blessant 550 autres. C'est la plus meurtrière en 19 ans de conflit en Afghanistan pour les forces de sécurité nationale. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé des actualités économiques en Afrique, la Minute Éco, signé Nanit Talani.
Le FMI a approuvé un crédit d'urgence de 148 millions de dollars en faveur de la Guinée pour soutenir son économie fragilisée par le Covid-19. Selon le FMI, l'aggravation des conditions mondiales et une épidémie locale qui se propage rapidement ont détérioré les perspectives de croissance à court terme de la Guinée et entravé les exportations minières et les recettes fiscales. L'Égypte appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir dans le conflit qui l'oppose à l'Éthiopie sur le méga barrage sur le Nil. Le Caire accuse Addis Abeba de bloquer les discussions en raison de son attitude non positive et par son insistance à vouloir remplir le barrage de manière unilatérale à compter de juillet, avec ou sans l'accord des deux autres parties. Les syndicats sud-africains ont rejeté les suppressions d'emplois proposées pour essayer de sauver South African Airways et tenter de la réformer. Pour les syndicats, les indemnités de licenciement sont trop petites et les suppressions d'emplois trop importantes. Le plan actuel implique la mise au chômage d'environ 90% du personnel. Pour terminer, le ministre zimbabwéen de la Santé, Obadiah Moyo, a été inculpé de corruption pour l'octroi irrégulier d'un contrat de plusieurs millions de dollars à la société Drax basée à Dubaï pour la fourniture de tests de dépistage et de kits de protection contre le coronavirus.
Et maintenant, vous retrouvez Yacouba Ouedraogo dans la page des sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Badara Mamaya Sen n'est plus. Ancien arbitre international, ancien président de la commission des arbitres de la CAF, le Sénégalais a tiré sa révérence à Rufisque, ville dont il a été maire. Seydina Abagué nous en dit plus.
Figure emblématique du sport sénégalais, Badara Mamaya Sen a gravi les échelons dans le monde de l'arbitrage sénégalais, africain et mondial, jusqu'à devenir un arbitre international très respecté. En 1992 à Dakar, il est au sifflet de la finale de la CAN opposant le Ghana à la Côte d'Ivoire et devient ainsi le premier Sénégalais à arbitrer à ce niveau lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Après une riche carrière sur le terrain, Badara Mamaya Sen devient le président de la commission des arbitres au Sénégal, puis vice-président de celle de la CAF en 2013. En 2017, il accède au poste de président de la commission des arbitres de la Confédération africaine de football. Pendant et après sa carrière, il a été un modèle pour les différentes générations d'arbitres sénégalais, parmi lesquels les internationaux Fallou Ndoye, Badara Diatta et Malang Diédhiou. Badara Mamaya Sen est également une personnalité publique influente et aimée dans sa ville de Rufisque où il était très apprécié par la jeunesse. Après plusieurs années d'activisme dans le domaine sportif et social, il s'engage en politique pour se mettre davantage au service de son terroir. C'est naturellement qu'il est élu maire de la ville de Rufisque avant de devenir haut conseiller des collectivités territoriales, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès ce lundi 22 juin 2020 dans sa ville de Rufisque. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
Au Burundi, le messager Ngozi a décroché son deuxième titre de champion de la première division dans ce pays qui a été le seul du continent à poursuivre son championnat de football malgré le Covid-19. Le sacre a été scellé samedi par une victoire 3-0 contre l'Inter Star qui a donné 5 points d'avance au club du nord du pays sur son premier poursuivant à une journée de la fin du championnat. Grâce à cette deuxième couronne nationale, le messager Ngozi est qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF. Il n'y avait pas de raison d'interrompre le championnat alors que d'autres activités continuaient normalement dans le pays, a affirmé Ndikuriyo Révérien, le président de la Fédération de football. Parmi les États africains qui ont suspendu les compétitions sportives en raison de la pandémie, la Tanzanie est devenue le 13 juin le premier pays à redémarrer son championnat national. Et puis le Japon a renoncé à sa candidature pour l'organisation de la Coupe du monde de football féminine en 2023, à quelques jours de la décision officielle de la FIFA. je ressens de la résistance contre l'organisation de deux événements majeurs dans le même pays en l'espace de peu de temps, une résistance renforcée par l'impact du coronavirus, a déclaré le président de la Fédération japonaise de football en référence aux Jeux de Tokyo reportés d'un an à 2021. Le retrait du Japon laisse la place à un duel entre la Colombie et la candidature conjointe Australie-Nouvelle-Zélande. Cette décision intervient quelques semaines après le renoncement du Brésil en raison de l'austérité imposée par la pandémie de Covid-19. La FIFA doit annoncer ce jeudi le pays hôte de ce mondial féminin 2023 qui passe d'un format de 24 à 32 équipes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Eric Manelakiza toujours avec vous. À présent, les dossiers de la Tranche Magazine. En République démocratique du Congo, le parti de Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation Congolaise, appelle le président Félix Tshisekedi à remettre la justice sur la bonne voie. Le parti se dit indigné de la condamnation à 20 ans de travaux forcés assortis de 10 ans de privation des droits civiques et politiques de son dirigeant, principal allié et ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi. Pour l'UNEC, le tribunal a condamné M. Kamerhe sans prouver sa culpabilité. Eddy Sango a joint à Kinshasa le secrétaire général de l'UNEC, Aimé Bodji.
Notre parti était choqué par le jugement qui a été prononcé avec une condamnation, mais aussi une très lourde peine qui est allée au-delà même de ce que la partie accusatrice a requis. Nous avons aussi constaté plusieurs irrégularités et donc nous allons bien entendu aller à l'instance supérieure, donc à la cour d'appel. En termes d'irrégularités, il y en a trois ou quatre qui sont saillants. Le fait que le jugement semble être basé sur des suppositions, des illusions, des insinuations. Et pourtant, en droit pénal, la partie accusatrice doit être en mesure de prouver la culpabilité au-delà du tout raisonnable, ce qui n'a pas été fait. Ensuite, il y a des renseignants et des témoins qui se retrouvent être concernés ou frappés par ce jugement, et pourtant, ils ne sont pas partis au procès. C'est une grande anomalie. Bref, il y a plusieurs anomalies, ce qui nous pousse à renforcer notre conviction qu'à l'instance supérieure, ce jugement sera balayé et le droit sera dit pour permettre à notre président national de recouvrer sa liberté.
Lors des plaidoiries, M. Vital Kamerhe a dit qu'il s'agissait plutôt d'un procès politique. Mais quelles sont les implications que cette condamnation peut avoir? On sait qu'il était il est l'allié principal du président Félix Tshisekedi et qu'ils sont en coalition et surtout qu'il y aurait dans leur accord cette clause qui lui permet d'être le candidat de la coalition Cash en 2023.
Pour l'instant, il est trop tôt pour juger des conséquences de ce jugement parce que le processus judiciaire est en cours. Il n'est pas arrivé au bout. Nous espérons qu'au bout de cet exercice qui est purement démocratique, dans un État qui se veut être un État de droit, on doit se soumettre à la justice. Et c'est pour cela que le président national, Vital Kamerhe, n'a pas hésité un seul instant à se rendre lui-même au tribunal quand il a été convoqué pour la première fois. Donc, je crois qu'il est trop tôt pour commencer à spéculer. Et encore que nous sommes membres de la coalition Cash, et si vous avez lu tous nos communiqués précédents, ben, nous avons réitéré cette position que nous faisons bel et bien à partir de la coalition Cash qui gère la République.
Et vous lancez un appel au président Félix Tshisekedi qui est votre allié.
Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas nous qui les disons, c'est la Constitution qui lui donne les pouvoirs de s'assurer que les institutions de la République fonctionnent bien et que, y compris le pouvoir judiciaire. Donc ça, ce sont ses fonctions régaliennes.
Certains de vos membres ont essayé de manifester, mais que la police est intervenue. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
Nous avons fustigé les villages de la force à Bukavu, à Walungu, Kisangani et ailleurs.
Aimé Bodji, secrétaire général de l'UNEC, le parti de Vital Kamerhe.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Surnommé le Sphinx de Daokro, son fief, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, chassé du pouvoir par un putsch en 1999, veut comme le phénix renaître de ses cendres pour redevenir président malgré son âge avancé, 85 ans. Il promet une victoire qui permettra aux jeunes de Côte d'Ivoire d'accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques. Le Point avec Cyril Kibaro.
Je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public découlant d'une attente forte de la base, m'imposant ainsi l'obligation de compétir lors de cette convention. C'est ce qu'a répondu Henri Conan Védier aux membres de son parti qui lui ont demandé d'être candidat à la convention nationale. Une convention qui se tiendra en juillet prochain et à l'issue de laquelle le candidat du plus vieux parti de Côte d'Ivoire au scrutin présidentiel d'octobre prochain sera connu. Une demande formulée officiellement par Ghislain Laoré, celui que l'on présente comme le plus jeune délégué départemental du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est donc la fin d'un suspense, puisque certains des hauts cadres du parti d'Henri Conan Védier, à qui l'on prêtait des intentions présidentielles, notamment les ex-ministres Jean-Louis Billon et Thierry Tanot, soutiennent cette candidature. Sauf catastrophe, Henri Conan Védier sera l'un des futurs adversaires d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat du parti au pouvoir, toujours en France, pour des soins. À 86 ans, la volonté de l'ex-président ivoirien de revenir aux affaires est diversement appréciée par les populations. Pour cet enseignant, la crainte que l'électorat du PDCI vole en éclats est bien réelle.
Nous sommes dans un pays où la population est très jeune. Est-ce que les gens vont véritablement adhérer à cette politique où aujourd'hui la jeunesse également commence à avoir les dents les plus longues pour pouvoir essayer un peu d'accéder à des postes de responsabilité? Bon, c'est aussi la démocratie. Espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne. C'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'Ivoiriens. Nous voulons la paix, nous voulons la cohésion sociale.
S'inspirer de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, en passant la main à des plus jeunes. C'est l'avis de Daouda Traoré, un habitant de Boaké.
Au PDCI, je pense qu'il y a assez de cadres, hein, notamment Jean-Louis Billon, Kakabé, et j'en passe. Donc, le président Henri Conan Védier, pour ma part, devait s'agir et laisser la place à la nouvelle génération.
En réponse aux attaques sur son âge et sa capacité à diriger à nouveau le pays, Henri Conan Védier répond que c'est cette victoire qui permettra aux jeunes de Côte d'Ivoire d'accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques. Après avoir largement contribué à l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2010 puis en 2015, le sphinx de Daoukro, comme on le surnomme, a invité les membres du bureau politique de son parti à investir le terrain pour la quête des électeurs. Siriki Baro, Boaké, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Samedi 20 juin a été célébrée la journée mondiale des réfugiés. Au Burkina Faso, on compte plus de 20 000 réfugiés qui se trouvent principalement dans la région du Sahel affectée par la crise sécuritaire. Une situation qui pousse certains réfugiés à quitter ces régions pour s'installer ailleurs. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Dans les profondeurs du quartier Tanguin de Ouagadougou, une zone non lotie, sans eau ni électricité. C'est ici qu'est installé depuis maintenant quelques mois Mohamed Agataye, 64 ans, réfugié malien depuis 2012 au Burkina. Mohamed, sa femme et ses deux enfants, depuis leur arrivée au Burkina, étaient au camp de Mentao, à Djibo, au Sahel. Le père de famille se rappelle de ses premiers jours de réfugié.
Quand j'étais venu, j'étais trop traumatisé.
Mohamed Agataye, réfugié.
Les événements de 2012-2013 qui m'ont amené. J'ai oublié le crépitement des armes. J'ai retrouvé une tranquillité.
Si ces réfugiés se trouvent aujourd'hui dans la capitale burkinabé, c'est à cause des problèmes sécuritaires que connaît le Burkina et principalement la zone du Sahel.
Nous demandons vraiment au Burkina Faso de voir dans quelle mesure nous soutenir jusqu'à ce que tout le monde, tout le Burkina, nous tous, nous sortons du bout du tunnel dans lequel on est.
De l'autre côté de la ville, au quartier Wemtenga, nous retrouvons une femme d'affaires, responsable d'une agence de voyage. Inge Iteka, 39 ans, mariée et mère de deux enfants. Arrivée comme réfugiée en 2000, cette Burundaise d'origine est désormais burkinabé. Inge Iteka.
Je suis arrivée au Burkina trop jeune. J'ai entendu parler surtout de Thomas Sankara. J'ai beaucoup aimé le Burkina Faso. Quand vous êtes ici, vous sentez comme chez vous. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de problème particulier. Je suis bien à l'aise.
Je peux dire qu'elle est plus boutilevée même que moi.
Ablassé Yago est l'un des voisins de Inge Iteka.
Elle-même, elle maîtrise les 45 provinces que moi. Elle a déjà parcouru plus de provinces que moi. Bon, en tout cas, côté social, il n'y a pas de problème. On s'échange. Souvent, je la pose des questions concernant son pays.
Le Burkina compte des milliers de réfugiés. Flavien Nézien, secrétaire permanent de la CONAREF, Commission nationale pour les réfugiés.
Nous avons plus de 20 000 réfugiés dans près de 19 000 Maliens, le reste étant composé de d'autres nationalités, une dizaine de nationalités.
Le principal défi auquel les réfugiés sont confrontés reste la question sécuritaire. Le secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés.
La plupart des réfugiés se retrouvent comme demandeurs d'asile dans des zones sensibles où se manifestent de façon accru des actions d'individus armés et non identifiés.
Si Mme Inge Iteka se sent bien au Burkina et demande aux réfugiés, où qu'ils soient, à se battre surtout les femmes pour le bien de leur communauté ou du pays d'accueil, le sexagénaire Mohamed Agataye, lui, souhaite un jour rentrer chez lui au Mali, même si en attendant, dit-il, je ne retrouve pour le moment aucun autre pays mieux que le Burkina pour moi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Alors que les manifestations contre la discrimination raciale se poursuivent dans de nombreuses villes américaines, le président Donald Trump a repris sa campagne électorale à Tulsa, dans l'Oklahoma. À travers tout le pays, le désir de revenir à la normale est tempéré par les nouveaux cas de Covid-19. Kane Farabo, correspondante de la VOA, fait le point, le récit de Lionel Gahima.
Devant des milliers de partisans réunis au centre de conférence de la Banque d'Oklahoma à Tulsa, le président Donald Trump a reconnu la remontée du nombre de cas de coronavirus dans le pays.
Lorsque vous effectuez des tests de cette ampleur, vous verrez plus de personnes, vous trouverez plus de cas.
Le désir du président de rouvrir le pays après les mois de restrictions a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la foule présente à son meeting.
Ouvrons les écoles, s'il vous plaît. Ouvrez-les.
Alors que le responsable de la santé continue de surveiller le nombre croissant d'infections au coronavirus, les rassemblements et les manifestations contre le racisme et la violence policière se poursuivent dans le pays. Certains manifestants réclament le déboulonnement des statuts honorants de ce confédéré de la guerre civile américaine. Le sénateur de Caroline du Sud, le républicain Tim Scott, travaille à l'élaboration d'un projet de loi sous la réforme de la police. Pour lui, il faut plus de fonds pour les forces de l'ordre, non pas une réduction au niveau fédéral.
Si vous voulez que les policiers soient formés efficacement, vous devez leur donner les outils de formation pour y arriver, ce qui nécessite plus de ressources. Nous savons que si vous voulez plus d'informations au niveau fédéral, cela nécessite plus de ressources pour la tenue des dossiers.
Tim Scott, le seul sénateur noir républicain, dit que le financement fédéral va aussi garantir le respect de la loi par les forces de maintien de l'ordre.
Il est important pour nous d'utiliser les ressources que nous fournissons aux forces de l'ordre de manière de les canaliser dans la direction qui pour nous est la meilleure dans l'intérêt de la nation, des communautés qu'elles servent et franchement des policiers eux-mêmes.
Alors que les parlementaires de deux camps continuent de travailler sur un projet de loi pour réformer la police, le microcosme politique de Washington est agité par des révélations contenues dans un livre de John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Trump. Ce livre intitulé « The Room Where It Happened » se veut un regard d'initié et offre une description peu flatteuse du leadership du président Trump. Nigel Schoenwald, ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis.
Mais je pense que ce manque de contact, ce manque de sensibilité et de jugement dont John Bolton parle, vous pouvez le voir dans la gestion des manifestations après le meurtre de George Floyd il y a 3 semaines.
Le conseiller de la Maison Blanche, Peter Navarro, a rejeté de nombreuses accusations de Bolton.
Il a été limogé parce qu'il n'obéissait pas à la chaîne de commandement, parce que ses opinions étaient totalement
Macron déconnecté du président Donald Trump sur la manière de gérer les affaires internationales. Et il rompt avec toutes sortes de traditions en publiant un livre à ce stade. Et il va se faire beaucoup d'argent.
Le ministère de la Justice a tenté de bloquer la sortie du livre de Bolton, arguant qu'il contient des informations classifiées. Mais le juge fédéral a donné son feu vert à la publication du livre.
Et c'est ici que s'achève le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Joseph de Morissin, Georges et Léonard Sagnon et Lionel Lunanila Gaïma. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Éric Manuel-Pizza vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.